avait pas Juan là-dessus aussi qui a joué pas mal? Ça sortira pas. T'as plus rien à nous donner, Véro. T'es vidé, vidé, vidé. Va te reposer un petit peu, puis attention à boisson. Hey, passez.
Je vais aller me faire une pause.
Bonne chance, 418-971-1021. Ramasse. Pas de respect pour les Beatles.
C'est pour que j'aille boire, tu peux.
88-971-1021, ça déboule. Vous êtes encore là, c'est le fun. Bonne chance. Prenez soin de vous. Prenez soin des vôtres. Prenons soin des autres. Véro, prends soin de toi. On se retrouve demain. Marceau s'en vient.
Salut.
En cette journée commémorative du jour du souvenir, Boulevard 102.1 désire souligner la mémoire de ceux qui sont morts en service militaire et honorer ceux qui ont servi en temps de guerre.
Donc, en ce jour du souvenir, c'est un mot qui me vient en tête et que je veux partager, c'est le respect.
Votre force, votre résilience, votre détermination font de vous des merveilleux humains avec tout ce que vous avez traversé.
11 novembre, faut se souvenir des gens qui ont laissé leur vie, des gens qui ont été blessés, des gens qui ont servi, des gens qui servent en ce moment et surtout les familles derrière qui supportent tous ces gens-là et sans qui ce serait impossible.
Que le coquelicot porté par des millions de Canadiens puisse nous rappeler les sacrifices faits par ces hommes et ces femmes qui ont donné leur vie pour que nous puissions poursuivre la nôtre.
Boulevard 102.1.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
102.1. Salut, bon lundi, bonjour du souvenir, en espérant que vous ayez passé une belle journée. On va certainement passer un excellent 60 minutes ensemble, puisque ce soir, on a le plaisir de jaser avec Maître Marc Bellemare. Maître Bellemare, bonsoir!
Hey, comment ça va?
Ça va très bien, hein? Ça va très bien, pardon?
On a une belle journée. Écoutons, c'est pas pire. On ne pas trop. Tant qu'il n'y a pas de neige et qu'il n'y a pas d'eau.
Une journée très pluvieuse, là, mais je peux vous le dire que pour avoir vu des images tantôt sur YouTube, chaque année, j'aime bien remémorer ce qui s'est passé il y a de ça plusieurs années. Le débarquement de Normandie avec des vétérans qui témoignent du débarquement de Normandie. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, je vais prendre la journée plutôt nuageuse et pluvieuse versus ce qu'eux ont vécu, là, nos soldats canadiens.
Oui, c'est ça. Mais moi, je pense qu'on tient pas assez compte de l'effort et des sacrifices qu'ont fait ces gens-là. On prend pour acquis notre liberté, Yann.
Ouais, ben oui.
On prend pour acquis notre liberté. Et puis, on est en temps de paix, relativement. En tout cas, en Amérique, on est en temps de paix. La paix, c'est fragile. La liberté, c'est quelque chose de sacré, mais c'est pas écrit dans le ciel. Hein. On ne vient pas au monde avec ça. Et on peut la perdre, cette liberté-là, éventuellement. Donc, il y a des... Malheureusement, il y a des forces militaires qui doivent exister dans les pays pour faire en sorte qu'on conserve cette liberté-là. Puis, ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe au Moyen-Orient, ben, c'est loin de chez nous, mais on n'est jamais à l'abri d'une perte de liberté. Puis, des fois, ça part de... On a vu ça, la dernière guerre mondiale, c'est parti de l'Europe, hein? Et puis, on a réussi à gagner cette guerre-là avec les Alliés, mais... Ça aurait pu virer autrement si ça n'avait pas été de Roosevelt, puis de Churchill, puis de nos alliés américains qui ont finalement réussi à s'impliquer, à accepter de s'impliquer pour sauver l'Europe puis sauver le monde en même temps, en tout cas tout l'Occident. Alors bravo pour nos militaires, puis il faut avoir une bonne pensée pour eux aujourd'hui, en ce jour du souvenir.
Exactement. Nos militaires, nos ex-militaires ainsi que leurs familles, nous ne vous oublierons jamais pour le sacrifice que vous avez fait. Maître Bellemare, on va commencer notre émission avec un texte d'opinion que vous avez fait parvenir au Journal de Québec, Journal de Montréal. Il est paru ce matin pour les gens qui veulent aller le consulter. Vous parlez du fameux C5 qu'on a régulièrement abordé, vous et moi, en mentionnant qu'il est ignoble que cette loi s'applique aux crimes violents. Vous avez pété une coche en fin de semaine.
Bien, regarde, écoute, j'en reviens pas. Parce que, tu sais, on parle de Justin Trudeau avec sa mégalomanie, c'est-à-dire sa folie de la dépense. D'ailleurs, en fin de semaine, je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans le congrès des libéraux provinciaux, il y avait des tirs groupés contre Pablo Rodriguez, ex-ministre de Justin Trudeau. Il est encore dans le caucus libéral, d'ailleurs, il est encore député fédéral à l'heure actuelle. Les tirs groupés de tous les autres candidats, sur quoi? sur les dépenses incontrôlées du gouvernement Trudeau depuis 2015. Et c'est donc intéressant de voir que pour une fois, ce n'est pas le Bloc québécois ou le Parti conservateur qui reproche ça à Justin Trudeau. C'est même dans la grande famille libérale. Je comprends que les libéraux provinciaux et les libéraux fédéraux, ce n'est pas tout à fait pareil, mais il y a quand même un minimum d'affinités. Ils ont au moins le même nom et ils travaillent ensemble pour les mêmes causes fondamentales. Et là, voici que les trois ou quatre candidats à la chefferie libérale décident de dénoncer la mégalomanie, les dépenses de fou, le déficit. Écoute, les dépenses de Trudeau font l'objet de critiques et Rodriguez va devoir expliquer comment il a pu, comme ministre de ce gouvernement-là, autoriser autant de dépenses puis nous mettre dans le trou à ce point parce que c'est historique le déficit auquel on fait face au fédéral.
Oui, il y aura à vivre avec son passé, effectivement, de député fédéral sous le règne libéraux. Puis les libéraux au Québec ont toujours été très près de leur argent, là, ont toujours su bien calculer pour la plupart, du moins, même s'il y a eu beaucoup de débordements, ils ont quand même été très près de leur argent. Pablo Rodriguez, c'est pas pour rien qu'on s'attaque à lui, là, c'est parce qu'actuellement, c'est lui le plus populaire qui se présente à la chefferie du Parti libéral du Québec. Charles Milliard, qui est un personnage intéressant, mais qui a un déficit de popularité qui est hallucinant. Je pense qu'il était autour de 5% là, au niveau des gens qu'il connaissait. Donc, lui a tout à gagner à attaquer un Pablo Rodriguez. Puis, les autres aussi ont tout à gagner à attaquer Pablo Rodriguez. Mais je me pose une question, Maître Bellemare. Pablo Rodriguez, c'est Montréal. Pablo Rodriguez réussira jamais à aller chercher la Côte-Nord. Pablo Rodriguez réussira jamais à chercher la Gaspésie, même Québec. Je veux dire, y a-tu des gens qui ont déjà entendu parler de Pablo Rodriguez? Y a-tu des gens à Québec en majorité qui trouvent que c'est un personnage intéressant? Ça va être difficile avec lui, là. J'aurais peut-être pris une candidature féminine, peut-être provenant de la grande région de Québec, qui aurait été capable de rallier autant les grosses villes que les régions, Maître Bellemare.
Oui, c'est sûr que tu as raison parce que le pourcentage d'appui, ce n'est pas nécessairement le nombre de comtés. On le sait très bien. Dans l'histoire, il y a quantité de gouvernements qui ont été élus avec un vote moins important. On se souvient de, par exemple, je me souviens que le Parti québécois, en 73, avait eu 30% du vote pour 6 députés. Ce qui était, et c'est là qu'on a commencé à parler de réformer le système électoral pour qu'il y ait une proportionnelle, pour qu'on tienne compte non seulement du nombre de comtés, mais du nombre de votes. Donc, il y a eu une promesse à ce moment-là, en 1976, de René Lévesque, de faire la réforme du système électoral. Ça n'a jamais été fait. Après ça, il y a eu François Legault qui l'a promis aussi. Ça n'a jamais été fait. En 2018, Jean Charest l'a promis en 2003, ça n'a jamais été fait parce qu'une fois qu'ils sont élus, ils sont bien contents, puis le système tout croche qui leur donne le pouvoir, ben ils vont le bénir plutôt que de respecter leurs promesses. Et le 26% ou le 28% de Pablo Rodriguez, certainement qui est concentré dans la région de Montréal, c'est un immigrant italien, pas italien, mais je pense qu'il vient du Sud, il vient du
Amérique du Sud, ouais.
d'Amérique du Sud, donc hispanophone. Francophone et anglophone, mais ça pogne à Montréal. Ici, on s'en fout pas mal à Québec et dans l'Est du Québec aussi et dans le Québec rural aussi, évidemment. Alors, probablement que ça donne pas nécessairement les bons comtés. Peut-être qu'éventuellement, il y a un journaliste qui va regarder comment ce vote-là se répartit, ces appuis-là de Pablo Rodriguez, puis que finalement, peut-être qu'il se retrouvera pas avec beaucoup plus de comtés que ce qu'ils ont actuellement, malgré sa popularité, parce que quand dans Darcy McGee, puis dans Baldwin, puis dans Notre-Dame-de-Grâce, tu obtiens 98% des votes. C'est une grosse concentration de votes, mais ça ne te donne pas plus qu'un comté, une personne qui parle à l'Assemblée nationale au nom de ton parti.
Pablo Rodriguez
Alors,
est né en Argentine, mais n'en demeure pas moins que, tu sais, il y aura, tu sais, le C5, là, c'est pas mal Justin Trudeau et ses amis là, qui ont mis ça en place, la fameuse loi C5. C'est une
Oui.
grosse problématique, là.
Ça touche la justice criminelle. On en parle moins, on parle beaucoup d'argent, on parle beaucoup de déficit quand on parle de Trudeau, on parle d'immigration, mais écoute, au niveau de la justice, c'est un désastre absolu, là. Parce que l'année passée, les cas d'agression sexuelle, tu en as 20 % des gens, là, pas accusés, condamnés, Yannick, là. Après procès, après qu'il y a eu toutes les opportunités de se disculper, Il y a un juge qui a décidé qu'il était coupable d'agression sexuelle. On sait qu'aujourd'hui, il y a une réprobation sociale immense face aux crimes de nature sexuelle, que ce soit auprès des femmes ou auprès des enfants. Donc, 20% l'année passée, en 2023, qui ont fait des peines à la maison. Des peines à la maison, à manger des chips, à écouter des films. Puis si tu as un peu d'imagination avec ton ordinateur, tu peux même travailler, tu peux même faire de l'argent, tu peux jouer à bourse. Il y a beaucoup d'emplois. Les entrepreneurs qui sont condamnés à des peines à la maison, ils peuvent travailler, ils peuvent envoyer des instructions, ils peuvent gérer des budgets, ils peuvent faire plein de choses. Puis entre toi et moi, là, qui surveille les peines à la maison? Ça, c'est un peu comme les permis de conduire suspendus. Qui surveille ça? Hein, le gars, il prend son char, il prend le char de sa blonde, il s'en va se promener, une balade dans le parc, un bon matin ensoleillé, là, avec des lunettes fumées puis une tuque, surtout l'hiver, là. Il n'y a personne qui va se rendre compte de ça. Donc, on impose des peines, mais on n'a pas assorti à ces peines-là, comme les peines à la maison, des conditions de surveillance strictes. Pas de bracelet électronique, parce qu'on sait qu'il y a des projets pilotes au Québec là, pour des bracelets électroniques. Ça vivote, là. On n'a pas, on est gêné d'avoir recours à ces méthodes-là. Mais il n'y a rien qui me dit qu'un bon matin, ou un bel après-midi, ou une belle soirée, une personne qui est condamnée à une peine à la maison ne prendra pas le large et n'ira pas se promener.
Mais juste la prémisse de
À
cette
n'importe
histoire.
quoi, aller dans un centre d'achat, aller dans un restaurant incognito, loin de ta ville,
Juste la prémisse
tout
de ça,
l'hiver.
Maître Bellemare, tu sais, la raison pour laquelle on avait mis ça en place, c'est qu'on regardait les statistiques à la grandeur du Canada concernant la population carcérale. Bon, on regardait les Blancs, on regardait les Noirs, on regardait les Hispaniques, on regardait les Italiens. Puis là, on s'est rendu compte qu'il y avait une trop grande représentativité des gens de certaines couleurs. Puis ça dérangeait ça, Justin Trudeau. Puis on a décidé de mettre quelque chose en place qui ferait en sorte que ces gens-là ne pourraient purger des peines de prison, mais à la maison. Donc, ils n'embarqueraient pas dans les statistiques. Le problème, c'est que le juge ne peut pas faire une différence entre un homme blanc et un homme noir face à la justice. Donc, là, on envoie des blancs, on envoie des noirs avoir des peines à la maison, tout simplement. Leur patente n'a pas fonctionné pantoute, en fait, là.
C'est un prétexte, Yannick. C'est un prétexte. On a voulu trouver un beau titre. On veut aider les minorités, on veut aider les autochtones, on veut aider les racisés qui sont surreprésentés dans nos prisons, dans nos pénitenciers. Donc, on va faire ces cinq, puis on va améliorer l'accès à des peines à la maison. Et on va abolir des peines minimales. Donc, c'est un prétexte pour pouvoir favoriser des agresseurs sexuels blancs, puis des pédophiles blancs, puis des batteurs de femmes blancs. Puis là, je vais te dire que on atteint des sommets incroyables parce que il y a quelques jours, il y a une dame qui a été condamnée pour un homicide involontaire. L'homicide involontaire, là, c'est un peu comme l'ex-juge de Lille là, qui avait pogné 9 ans de pénitencier pour ça. Bien, imagine-toi donc que pour un homicide involontaire, une dame qui a frappé un client et qui finalement le client est tombé sur la tête, il est mort. On a parlé d'un homicide involontaire, donc elle va causer criminellement la mort d'un individu. Elle s'en sort avec une peine dans la communauté de 2 ans et moins. La couronne demandait 4 ans, j'espère qu'ils vont aller en appel, là. Demandait 4 ans, l'autre s'en tire avec une peine homicide, là. Alors, on n'est plus dans les abus sexuels puis dans la violence conjugale, on est dans des homicides. Donc, les catégories les plus graves de criminalité dans notre code criminel. Je te donne aussi un autre exemple. Il y a une dizaine de jours, un gars qui fuit la police, coupable de conduite dangereuse à 180 km/h, peine à la maison de 9 mois. Le gars est arrivé tout sourire au palais de justice, une vraie joke, là, tu sais. Ce gars-là, il est mort de rire, là. Tu penses à ça, là? Il n'y a pas de prison. Il n'y aura pas à subir l'opprobre d'une privation totale de liberté, d'avoir à justifier auprès de sa famille, des tiers, des voisins, le fait qu'il est en prison. Et quelle est l'introspection que tu vis quand tu es à la maison? Quand tu envoies ton enfant en punition, là, il n'a pas son Nintendo puis son jeu vidéo avec lui, là, tu sais, il est privé. Réfléchis, regarde le mur, mon homme, là, puis réfléchis au fait que tu as fessé quelqu'un ou que tu as brisé quelque chose, tu n'as pas le droit de faire ça. puis ton père va te punir, puis tu vas aller dans ta chambre pour une couple d'heures ou une couple de journées.
Ouais.
Pourquoi pas? Alors, c'est ça la prison.
Ouais,
C'est pour
puis
les adultes qui n'ont pas compris, mais là,
et dans
on
votre
les
texte,
envoie chez eux, dans le confort de leur foyer.
dans votre texte, Maître Bellemare, vous dites les victimes qui souhaitent une peine juste à la hauteur de l'effondrement psychologique qu'elles vivent restent carrément sur leur fin et leur perspective de réadaptation en sont autant altérées. Même les victimes souffrent de tout ça, de ce genre de peine bonbon-là à la maison.
Mais c'est à elle que je pense surtout, parce que quand tu es victime puis que tu dénonces un agresseur sexuel, tu te fais interroger par la police, par le procureur de la couronne, le DPCP, éventuellement le juge, le procès, s'il plaide pas coupable. Et là, tu te retrouves avec un gars qui va être en prison, condamné en prison, à la maison pour 5 mois. C'est quoi la joke, là? 5 mois à la maison. Les gens comprennent ça. Et les accusés, les condamnés ont de plus en plus recours à cette mesure-là, parce qu'on comprend que c'est loin d'être aussi contraignant que la prison, c'est loin d'être aussi déshonorant puis privatif de liberté que la prison. Et là, ce sont des chiffres que je te donne, là, 20 %, là, 112 des 569 condamnés en 2023 ont bénéficié de peine à la maison, mais je te jure, là, que les chiffres de 2024, là, ça va nous jeter à terre, là.
Pas
Ça va être,
encore
d'après
pire.
moi, entre le tiers et la moitié.
Est-ce que
Ça va augmenter
est-ce
parce
que
qu'il y
c'est
en a de
réversible,
plus en
ça?
plus.
C'est-tu réversible, Maître Bellemare, à partir du moment où les conservateurs reprennent le pouvoir? Parce que les conservateurs ont toujours été tough on crime, là. Ils peuvent-tu reprendre la C5 puis annuler ça carrément?
Bien, ils peuvent l'abroger, bien sûr, ils peuvent l'abroger. Et normalement, quand tu abroges une loi, puis tu reviens au processus qui prévoyait avant C5, parce que C5 date de novembre 2022. Avant ça, il y en avait des peines dans la communauté, mais c'était beaucoup plus restrictif. Il y avait des peines minimales. Pour tel type de crime, on avait imposé la peine minimale, mais voici que Trudeau a laissé les vannes ouvertes en novembre 2022. Il n'y a plus de peine minimale pour la plupart des crimes. Le juge a pleine liberté. Les peines à la maison sont favorisées. Alors, moi, je te jure, là, je trouve que notre justice criminelle, tout le système de justice criminelle qui vise à punir puis à réadapter, mais à punir aussi, ne l'oublions pas, parce qu'il faut qu'il y ait une punition, il faut qu'il y ait une conséquence à une agression sexuelle ou à une violence conjugale ou même pour un crime de haut niveau, peu importe la nature du crime. Alors, on passe complètement à côté. On est en train de banaliser tellement que les victimes se disent, ben, ça me donne quoi, moi, de passer à travers tout ce processus-là, de me faire écœurer, de me faire transquestionner, de me faire ostiner, qu'on doute de ma crédibilité, raconter tout ça une fois, deux fois, 10 fois, 20 fois, si au bout de la ligne, au bout du processus, ce gars-là se retrouve avec une peine à la maison. C'est dissuasif. Et d'ailleurs, le ministre de la Justice du Québec, Simon-Jolin Barrette, à l'été 2023, l'année passée, avait dénoncé cette loi-là en disant au fédéral, avec ces cinq, puis vos peines dans la maison, vous brisez les efforts qu'on fait pour aider les victimes d'agressions sexuelles à dénoncer dans le processus pour atteindre un niveau de peine acceptable. Et vous banalisez les agressions sexuelles. Il l'avait dit. Maintenant, le fédéral n'a pas écouté, là comme ailleurs. Mais cette loi-là, c'est le gouvernement Trudeau qui doit la porter. Puis, comme je te disais tantôt, on parle beaucoup de déficit puis d'immigration. Il ne faut jamais oublier la justice criminelle dans laquelle Justin Trudeau est venu jouer. Et avec beaucoup, beaucoup de maladresse, à mon avis. Et cette loi-là doit être corrigée. On doit réimposer des peines minimales si on veut donner à notre système de justice criminelle des dents, de la crédibilité pour que les citoyens qui payent pour cette justice-là en soient fiers au bout de la ligne.
Exact. Prochain dossier, je ne sais pas si vous avez vu les articles de Québécois de la semaine dernière concernant des jeunes. C'est surtout dans le secteur de Montréal, mais c'est un phénomène qui a commencé aux États-Unis, même au Mexique. Ça s'appelle le whitelining, donc des jeunes qui embarquent sur les autoroutes et décident de zigzaguer entre les lignes blanches de l'autoroute, donc entre guillemets, entre les véhicules aussi qui sont sur cette dite autoroute. Ces jeunes-là peuvent rouler entre 150 et 250, même 300 km/h sur sur l'autoroute au travers des véhicules qui sont là, qui, eux, s'attendent pas à avoir une telle vitesse. J'ai été voir sur le site Instagram, là, White Lining Montreal, là, et souvent, on voit que ces jeunes-là se dotent de véhicules sport sur lesquels on ajoute énormément de performance, ce qui fait en sorte que ces jeunes-là peuvent se sauver très facilement des policiers. Et dans une vidéo, entre autres, qu'on peut voir sur Instagram, les jeunes arrivent derrière la police, flashent la police pour dire à la police de se tasser, dépassent la police par la gauche et ensuite se sauvent de la police à une vitesse qui est complètement folle. Puis les policiers, avec leur véhicule, n'ont pas un véhicule hyper puissant. Là. Il y a un booster pack, mais c'est pas assez puissant pour rattraper ces jeunes-là. Et là, ces jeunes se filment là et ce film et mettre ça sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Même les policiers, ils n'amorcent pas de poursuite parce qu'ils se disent que ça peut être même pire. Le jeune peut se tuer ou il peut tuer d'autres personnes en essayant de se sauver. Fait qu'il y a plusieurs opérations policières qui se mettent en branle dans le secteur de Montréal, mais juste de voir le phénomène un peu inconscient, Maître Bellemare, des véhicules qui circulent entre 150 puis 300 km/h sur l'autoroute au travers des honnêtes citoyens qui, eux, n'ont pas demandé à être menacés comme ça, de cette façon-là. C'est assez particulier, puis j'espère juste que les sentences seront peut-être durcies là, pour ces fous de la route qui risquent la vie des gens.
Il faudrait des peines minimales, minimalement. C'est ce que je te disais tantôt, parce que, tu sais, le gars dont j'ai parlé tantôt, là, qui a fui, puis qui a eu une peine à la maison de 9 mois, là, OK, là, on va le renommer, là. Il s'appelle Joe Al-Romine. 180 km/h, il fuit la police, il refuse d'obtempérer un ordre de la police, il s'en tire avec une peine à maison de 9 mois. C'est inacceptable. Conduite dangereuse, il devrait avoir une peine minimale, c'est-à-dire mettre dans le code criminel un minimum, je ne sais pas moi, d'un an de prison ou de 2 ans de prison. Mais tu sais, pourquoi pas 1 an de prison? En dedans, 1 an de réflexion, conduite dangereuse. C'est ce genre de fous-là là, qui se promènent avec des véhicules puis qui vont tuer du monde et qui vont nous insécuriser sur les routes. Alors là, dans le journal de la fin de semaine, tu l'as vu comme moi, on a des cas assez patents. Marquis Alexandre, OK? Écoute, conduite dangereuse, pas une fois, 6 fois, entre le 18 septembre et le 16 octobre l'an passé. Comment ça se fait que ce gars-là est encore en liberté? Comment ça se fait qu'il n'y a pas une suspension automatique du permis dès qu'il est accusé de conduite dangereuse? C'est ça qu'il faut faire. Ces gars-là, même s'il a la chance de se... Même s'il a la présomption d'innocence, même s'il a la chance de se défendre, le système est tellement lent, il y a tellement de reports, il y a tellement de lenteur au niveau du système judiciaire qu'en attendant, on ne peut pas laisser ce gars-là se promener sur la route 6 fois, Yann. 6 fois, ça veut dire qu'il est accusé pour une première fois, puis après ça, il recommence 6 fois, puis là, on va dire, on va te faire un procès, on va te permettre de te défendre. En attendant, ça prend des mesures coercitives assez sévères, puis il faut suspendre des permis automatiquement, empêcher ce gars-là, parce que s'il avait été suspendu une première fois, il n'aurait pas récidivé 5 fois. Alors, c'est ça qui me choque, et c'est ça qui fait que les gens se disent à un moment donné, bien, ça donne quoi d'avoir la police? Ça donne quoi d'avoir des procureurs de la couronne? Ça donne quoi d'avoir des juges? Ça donne quoi d'avoir des prisons? Si finalement, on ne sévit pas et on laisse ces gars-là se promener allègrement sur nos routes. Puis tu as raison, c'est un nouveau sport. Et ces gars-là sont grisés à l'idée de fuir la police, de rouler en fou. C'est comme une drogue pour eux autres. Ils sont un peu comme sur leurs jeux vidéo, là. Mais dans la vraie vie, puis la police te court après, tu cours après comme dans un film. C'est comme une mode et c'est surtout dans la région de Montréal, évidemment, mais il demeure qu'il y a énormément de population dans ces régions-là, beaucoup de véhicules et c'est pour ça que ça prend des mesures, des peines minimales et des suspensions de permis automatiques. On est fort sur le blabla au Québec, puis la SAC qui fait de la publicité. Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Mais les cas extrêmes comme ça, on a l'impression que si tu atteins un niveau d'alcool au volant, on va suspendre ton permis. Ça, c'est ce que j'appelle la justice de masse. On a l'impression que les cas extrêmes de délinquance sur la route, ils passent dans une autre zone où on s'en occupe moins, alors qu'on devrait s'en occuper plus.
Autre dossier, Maître Bellemare, Marco Rodrigue est finalement coupable de tentative de meurtre sur une policière. Qui est Marco Rodrigue? C'est l'individu qui a tenté de tuer Catherine Giroux dans le secteur de la Beauce. Catherine Giroux qui était dans son autopatrouille, qui est en train de vérifier la vitesse des individus qui circulaient sur l'autoroute. À un moment donné, elle a trouvé Marco Rodrigue sur son passage. Il roulait trop vite, donc elle a décidé de l'intercepter. Marco Rodrigue est sorti de son véhicule tout de suite, pendant que Catherine Giroux était en train de rentrer son numéro de plaque dans son ordinateur pour ensuite procéder à une vérification avec les papiers de l'individu. Donc, elle était toujours dans son véhicule. Rodrigue est sorti, a décidé de la tirer. On parle de deux balles. Une qui a atteint son doigt, en fait, qui était sur son volant, et l'autre qui a atteint directement le coussin de tête qui était derrière elle à ce moment-là. Heureusement, comme elle l'a dit, ce qui lui a sauvé la vie, c'est qu'elle s'est tassée sur sa gauche pour essayer d'éviter les coups de feu qui étaient émis en sa direction. Et elle a enclenché la marche arrière pour s'éloigner de Marco Rodrigue. Il y a une enquête policière qui s'est entamée à ce moment-là. On a réussi à retrouver Marco Rodrigue quelques heures plus tard dans le secteur de la Beauce. Et l'individu s'est fait arrêter. Il y a eu un procès et là, il a été déclaré coupable de tentative de meurtre. On lui donne combien à Marco Rodrigue?
Pour sa tentative de meurtre?
Oui, ça mérite quoi? Parce que on s'attaque au système.
Minimum 10 ans de pénitencier.
Mais on s'attaque au système, Maître Bellemare. Là, on peut s'attaquer à un juge, on peut s'attaquer à un avocat, on peut s'attaquer à une policière. C'est quand même des représentants de la justice, là.
Oui, oui, tu as raison. Puis ça nous rappelle un peu Mme Boucher qui avait ordonné l'assassinat de deux gardiens de prison, une gardienne, puis qui ont été finalement tués. Et c'est vrai, tu as raison, on s'attaque au système. Alors, moi, je te dis minimum 10 ans, espérons que ça va être 15 ou plus. En tout cas, écoute, ça n'a aucun bon sens. Ce gars-là, évidemment, ne doit pas être remis en liberté pour aucune considération. Et tu sais, c'était quoi son argument, hein? Son avocat plaidait, moi, j'en reviens pas, tu sais, Il plaidait que son client avait seulement voulu servir un avertissement à la policière sans se soucier de la blesser. Ouais. Écoute, il tire dans le windshield. Mais non, ça tient pas de la route.
Si on fait quelques recherches sur Maître Samuel Kozak, qui est l'avocat de la défense de cet individu-là, on se surprend pas trop de la défense là, dans ce cas-ci. Faites-le l'exercice, Maître Samuel Kozak. Vous allez tomber sur des articles de journaux où lui et sa famille ont été impliqués dans quelques dossiers avec les policiers. Et il a quand même réussi à devenir avocat quelques années plus tard. Mais savez-vous pourquoi Marco Rodrigue a dit qu'il avait tiré? Parce qu'il y a de ça quelques
années... Il voulait faire peur.
Oui, il voulait faire peur, mais il y a de ça quelques années auparavant... Il habitait dans un genre de camp de chasse ou un camp de fortune. C'est un genre de sans-abri. Puis pour l'hiver, pour réussir à manger pendant son hiver, il avait décidé d'abattre un orignal. Et les agents de la faune l'avaient intercepté à ce moment-là, ce qui fait en sorte que, bon, ils sont repartis avec l'orignal décédé, et lui avait manqué de viande pendant l'hiver, et il avait dû être transporté en hélicoptère pour le sauver à ce moment-là. Et ça a l'air que ça avait créé une grosse frustration à l'intérieur de lui. Puis il s'était dit, c'est pas elle qui va venir voler mon véhicule, parce qu'il n'y avait pas de permis de conduire à ce moment-là. Là.
Oui, alors, tu sais, nous autres, les bonasses de ce monde, là, les payeurs de taxes naïfs que nous sommes, on y a payé à ce gars-là un hélicoptère dans le temps. On y a payé des gardes de chasse qui sont quand même pas au salaire minimum. On y a payé un procès pour avoir tiré sur une policière qui a duré 4 semaines. Ça aussi, ça coûte un bras. Pas si tu le sais, Yann, là, mais les juges puis les avocats. Puis les sténographes, puis les locaux, puis tout ça, c'est pas donné. On va y payer une détention qui va coûter 330$ par jour pendant tout le temps où il va être en prison. On va y payer des libérations conditionnelles probablement à un certain moment donné de sa vie. Nous autres, on paye pour un système. J'espère que cette fois-ci, le système va faire sa job, qu'on va avoir la paix pendant au moins 10 ans de cet individu-là qui présente manifestement assez peu de chances de réadaptation, mais tu sais, quand il dit, par exemple, dans un interrogatoire vidéo, Il avait dit aux enquêteurs qu'il était écœuré de se faire voler par le gouvernement. Moi aussi, ça, moi aussi, je suis écœuré de me faire voler par le gouvernement. Toi, ça te tente-tu de le dire? T'sais, t'sais. On est tous écœurés de se faire voler par le gouvernement, surtout avec les déficits qu'on a, les services qu'on a qui ne sont pas bons. Au fédéral, c'est les passeports, les impôts, et au provincial, la santé. On est tous écœurés. Puis même le ministre Dubé l'a dit la semaine passée, on n'en a pas pour notre argent. Mais ça, là, ça ne te permet pas de prendre un gun puis de tirer sur une policière pour essayer de la tuer, parce que malgré ce qu'il a dit dans sa défense, puis le jury n'a pas fait trop long avec ça, c'était assez évident que ça n'avait pas d'allure, mais il a quand même tiré, puis il aurait pu la tuer. Puis si cette policière-là, Catherine Giroux, n'avait pas eu la bonne idée de se pencher légèrement vers la gauche, elle ne serait plus avec nous autres, puis elle aurait été tuée, là. Alors, écoute, moi, j'ai l'impression que les policiers, quand ils se lèvent le matin, ils sont en patrouille, ils doivent toujours se demander quel genre de journée je vais passer, parce que je vais me rendre à la fin de la journée.
Ah, c'est un
parce
film.
Quand même, ils sont au front, c'est comme des militaires qui sont à la première ligne de tir.
Ouais. Puis je peux me permettre d'y aller au personnel, Maître Bellemare, puisque je la connais très bien. Elle a été collaboratrice avec moi, Catherine Giroux, pendant quelques années. Personne formidable qui fait son métier pour les bonnes raisons. Puis il y a de ça quelques mois, je l'avais croisée ici en bas à la station. Il y a une clinique pour la main. Puis elle m'avait mentionné que lors de l'intervention, quand ce fou-là lui avait tiré dessus, elle avait reçu une balle sur un doigt, ce qui fait en sorte que le doigt, vous comprenez qu'il y a encore un peu de difficulté aujourd'hui. Et elle avait reçu aussi de la vitre dans ses yeux. Donc, quand Marco Rodrigue a décidé de tirer avec son arme, nécessairement, c'est arrivé dans la vitre, puis elle a reçu de la vitre dans les yeux. Donc, elle ne voyait absolument plus rien. Donc, elle s'est fermée les yeux, elle a enclenché la marche arrière du véhicule de police, puis elle a mis le gaz au fond pour s'éloigner le plus possible de l'homme qui était armé, qu'elle n'était plus en mesure de voir en raison du fait qu'elle était pratiquement rendue aveugle avec les éclats de verre dans ses yeux. C'est une histoire complètement atroce, là.
Ouais, c'est ça. On a une peine minimale de 4 ans pour ce type de tentative de meurtre avec une arme à feu, ce qui est quand même minimum. On comprend que dans certaines, ça dépend des circonstances, mais ce gars-là qui tire non pas un, mais 2 coups de feu avec son arme qui veut tuer la policière parce que là, il est condamné pour avoir tenté de la tuer avec son 308 délibérément pour une question d'arrestation. Écoute, il n'est pas victime d'une perquisition illégale, là. Il n'a pas été battu, il n'a même pas été arrêté violemment. Il est arrêté pour un contrôle. Puis il tire sur la policière. C'est un crime absolument odieux. C'est le juge Louis Dionne qui est aux affaires, Cour supérieure. On va espérer qu'il va avoir une bonne réflexion puis qu'il va en arriver à une peine très, très sévère parce que c'est 4 ans minimum. Ça peut aller à perpétuité. Moi, je pense qu'en bas de 10 ans, c'est inacceptable. C'est certainement au moins ça qui va lui être condamné. Mais en même temps, on va-tu se retrouver avec un gars qui va sortir au bout du tiers ou du 2/3, là, parce qu'il est fin en prison puis il fait des jokes, là, ou ben non, si on va vraiment y donner la peine. Parce que tu sais que très souvent dans les médias, on va couvrir ce genre d'événement-là, mais on ne suit pas l'affaire. Puis on tu sais, mettons, il est condamné à payer à 15 ans de prison, mais au bout de 7-8 ans, mon gars se promène, puis il a des permissions, puis il y a des ci, puis il y a des ça. Moi, c'est ça qui me choque. Si on suivait tous les dossiers vraiment, on verrait qu'entre la condamnation du juge et la réalité, il y a toujours une différence parce que ça passe le filtre très soft on crime, des libérations conditionnelles. Et ce qui choque, c'est beaucoup ça, mais ça, on en entend moins parler aussi. C'est moins couvert que les jugements des tribunaux.
Exact. Puis je voulais vous poser une question parce que Maître Samuel Kozak, moi, comme je suis l'actualité, vous comprenez que ça me disait quelque chose. Puis là, je suis retourné sur des anciens...
J'imagine que c'est la première fois que tu vas parler de lui.
Des anciens articles. Samuel Kozak qui avait écopé de 30 jours de prison pour avoir attaqué un agent correctionnel. Est-ce que... bon, dans ce dossier-ci, j'imagine que lui a fait une demande de pardon, là. Mais est-ce que les avocats peuvent avoir un dossier qui criminel?
Je pense que non. Mais,
parce qu'il y a déjà un juge qui a continué de présider alors qu'il avait une accusation criminelle.
Oui, je sais. Honnêtement, je pense que dès qu'il y a une accusation criminelle, un avocat devrait cesser de pratiquer. Puis s'il est condamné, il devrait pas être, il devrait perdre son droit de pratique. Mais je sais qu'il y a des dossiers de crimes, surtout des questions d'alcool au volant, par exemple, avec des avocats qui continuent de pratiquer. Je ne pense pas que ce soit automatique.
Parce que dans
Et
ce
on a même
cas-ci,
dit.
voie de fait contre un agent correctionnel, je pense que c'est un dossier criminel un peu plus
Ouais,
étoffé
c'est
que
pas.
si tu avais pris de l'alcool au volant, là, quoique c'est quand même un crime au Québec. Puis je me souviens de Maître Jean-Roch Parent qui a eu quelques déboires aussi avec la justice, puis qui est redevenu avocat quelques années plus tard, là.
Ah oui. Il y a des juges aussi qui ont été condamnés pour des cas d'alcool au volant. Tu te souviens du juge Yves Alain en Cour
Oui.
supérieure?
On l'appelait
Qui avait
Yves Alain.
dit... Hein?
Dans les médias, nous autres, on l'appelait Yves Alain.
Ah oui, OK. Alors, ouais, c'est ça, des condamnations. Puis, il avait quand même continué de siéger. Et voilà, alors, c'est ça.
OK.
Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, là.
Ouais, c'est ça,
Donc,
c'est assez
on
particulier.
trouve ça aussi dans notre système soft on crime à plusieurs égards.
Moi
Moi,
qui pensais que les avocats, vous étiez parfaits, finalement, vous ne l'êtes pas tant que ça, là.
non, mais toutes ces choses-là m'horripilent, Yann, surtout au niveau de la justice criminelle. C'est peut-être parce que ça fait 45 ans que je représente des victimes d'actes criminels. J'en vois tous les jours qui viennent ici me raconter leur périple et en quoi ils ont perdu confiance dans ce système qui a demandé beaucoup et qui a livré peu. Avec toutes sortes de conséquences à tous les niveaux. Et je pense qu'on est mûr pour un redressement de cette justice-là. Je pense pas qu'on doive aller du côté américain où là, tu peux pogner 400 ans de prison. Il y a comme une folie, là, au niveau des États-Unis. Je suis pas sûr que ce soit le bon niveau de justice, mais je demeure convaincu quand on compare les systèmes judiciaires dans les pays occidentaux que la meilleure place pour commettre un crime, c'est le Canada. Avec le gouvernement qu'on a et avec les lois qu'on a, les Jordan de ce monde, la charte, tous les fardeaux qu'on fait porter aux policiers quand ils font des perquisitions, des arrestations. Il suffit de soulever le moindre travers et d'invoquer un droit fondamental de la charte fédérale pour obtenir un acquittement ou une libération. Toutes ces mesures-là m'horripilent profondément. Et je pense que c'est un manque de respect pour les victimes qui vivent ce processus-là et qui très souvent se retrouvent avec des acquittements, des libérations ou des condamnations à des peines qui ne reflètent pas véritablement l'état de leur situation. Et tout ça est à revoir, Yann, et j'espère qu'éventuellement on va assister à des changements significatifs de ce côté-là. On verra bien la prochaine élection. Ça a l'air que Trudeau sera plus là après le prochain scrutin. Si c'est Pierre Poilievre, ben il faut souhaiter que le gouvernement conservateur éventuel va s'attaquer à cette situation-là puis imposer des changements radicaux à notre système de justice criminelle.
Maître Bellemare, on va faire une courte pause si vous le voulez bien. Je rappelle qu'on est avec Maître Bellemare. Comme à chaque lundi, on a le plaisir d'être avec lui. Si vous avez des dossiers de SAAC, d'IVAC, de CNESST, c'est bellemareavocat.ca. Bellemareavocat.ca. On s'arrête quelques secondes et on vient.
Marceau, le soir. Ridge against le matin. Le matin. Boulevard 102A.
Matin, Normand Brathwaite qui est là, Normand.
Bonjour tout le monde.
Je veux te parler de piment fort parce que je suis trop jeune pour avoir vécu la première mouture.
Ben,
parce que quand t'es revenu, tu voyais peut-être ça repartir pour plusieurs années.
Mais c'est pas ça, c'est qu'on avait deux avocats au balcon.
Je suis obligé de regarder deux avocats pour. Je peux-tu,
ben
je
ouais, puis. La preuve, c'est que Mané ont mis un numéro que j'ai fait avec François Pérusse. Puis François avait traduit Aigle Noir de Marie-Carmen en Aigle Noir. Puis moi, je faisais une chorégraphie,
oh oui.
Là. Et là, ils l'ont représenté à un anniversaire de la disque.
Ouf.
Et quand on l'a fait la première
aïe,
fois,
aïe, aïe.
T'as Richard Séguin qui est crampé. Tout le monde est crampé. Et là, quand il leur présente, Claude Pelgag, qui
a apeuré.
Apeuré, on l'a dit. Sortez-les de là. Fait que je trouve que le balancier est allé un peu trop l'autre bord.
Pour ton rattrapage de Rage Against the Machine, rends-toi sur le BLVD.fm et l'application mobile. 102.1. 102.1.
Tous les lundis de 18h dans Marceau Soir, ne manquez pas l'ex-ministre de la Justice, Maître Marc Bellemare. On jasera de justice, d'actualité et bien plus. Bellemareavocat.ca.
Ho, 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 mon Jean!
Comment? Ho, ho, ho! Noël, ça commence dans un mois. Mais chez Lévis Chrysler, tu peux te gâter toute l'année. Par exemple, on vous propose en novembre un Jeep Wrangler Sport hybride à seulement 55 985 à l'achat, incluant les rabais des gouvernements. Au volant d'un Jeep comme ça, tu te rendras même pas compte que c'est l'hiver.
C'est toute qu'une offre, Jean. Puis c'est vrai, pas besoin d'attendre Noël pour se gâter. T'es tellement sage, hein?
Je le sais, je le sais.
Allez voir ça sur levychrysler.com ou mieux encore, passez-nous voir. Chez Levi Chrysler, on s'occupe de vous.
Ho, ho, ho! Le samedi 16 novembre, assistez à l'arrivée du Père Noël à Laurier, Québec. Animation, surprise et spectacle musical avec vos personnages préférés, dont la Reine des Neiges. Pour connaître l'horaire et réserver votre séance photo avec le Père Noël, visitez laurierquebec.com.
En 1949, les véhicules étaient loin d'être parfaits. 75 ans plus tard, ils ne sont pas encore parfaits, mais heureusement pour les réparer, les entretenir et bien les chausser, il y a des harnais. Et avec l'offre de paiement sur 6 mois sans frais ni intérêt, c'est juste parfait.
Du 11 au 24 novembre, obtenez un rabais instantané allant jusqu'à 100 $ à l'achat de 4 pneus Yokohama sélectionnés. Une offre exclusive, point S. Les pneus Yokohama, un choix incontournable pour la sécurité et la durabilité.
Des harnais, 75 ans et plus jeune que jamais.
Bienvenue chez McDo, est-ce que je peux prendre votre commande?
Je vais prendre un...
Le menu McValeur offre plein de délicieuses options à moins de 4 $ chaque plus taxes. Alors c'est correct de prendre... Un petit moment pour y penser. Taxes applicables en sus dans les restaurants McDo du Canada participants. Les prix ne s'appliquent pas à la livraison.
La présentation d'un nouveau modèle, c'est excitant. Et quand c'est la dynamique équipe Pocket Nissan qui déroule le tapis rouge, c'est grandiose. Assistez à la présentation très spéciale du nouveau Kicks, jeudi 14 novembre dès 17h chez Pocket Nissan à Lévis.
Les optométristes répondent à 180 000 urgences par année. Partout au Québec, ils sont en première ligne pour veiller à la santé oculaire de toute la population. Et ils ne cesseront jamais de le faire. Mais si le gouvernement continue à ne pas les reconnaître à leur juste valeur, sans voir que sans eux, ça lui coûterait les yeux de la tête...
Aïe aïe!
Ben, c'est ça. Il se met le doigt dans l'œil. Un message de l'Association des optométristes du Québec.
Pour tous vos travaux sur votre terrain, ça vous prend un tracteur Massey Ferguson de chez SA Service Agricole. Déneigé, creusé, chargé et tiré. Garantie 10 ans à partir de $59 par semaine à l'achat. Disponible maintenant. Pour les meilleurs tracteurs, saserviceagricole.ca.
Hey, lâche ton jeu, mon film n'arrête pas de couper.
Non, c'est toi qui fais bugger mon jeu!
Novembre, le temps est gris, tout le monde rentre dans la maison. Le mois parfait pour réaliser que ta connexion Internet n'est plus adéquate. Passe à Oricom, achète la paix familiale avec une connexion 100% fibre rapide, fiable et surtout moins chère. Visite oricom.ca et abonne-toi en ligne. C'est aussi rapide que la fibre. oricom.ca. Tu le regretteras pas.
L'aventure vous attend chez votre concessionnaire Mazda. Venez découvrir le Mazda CX-50 2025 avec sa traction intégrale iActive de série offerte à partir de $114 par semaine. Oui, seulement $114 par semaine pour un CX-50 2025. Faites vite, c'est le temps de choisir Mazda. L'offre prend fin le 2 décembre. Location 48 mois à compte de $1925. Valeur au détail de $42,888. Taxe en sus. Allocation de 20 000 km. Des conditions s'appliquent. Visitez votre concessionnaire Mazda dès aujourd'hui.
Boulevard 102.1. De l'actu, du sport, de la circulation, du showbiz. Il se passe de quoi, vous allez le savoir en premier. Il se passe rien, vous allez le savoir aussi.
C'est simple.
Boulevard 102.1, connecté sur ce qui se passe à Québec. Tes sujets, ton rock, ta radio.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir.
Chaque lundi, on a le plaisir d'être avec Maître Marc Bellemare. Mais Maître Bellemare qui a de l'air particulièrement en forme ce soir. Y a-t-il des vacances reposantes, Maître Bellemare, ou c'est votre fin de semaine qui vous a rendu joyeux comme ça?
Non, j'ai passé la fin de semaine à l'île aux Grues, au nord de Montmagny. Il faisait très beau. Ils ont annoncé un 5 degrés dimanche, samedi, je me suis dit, tiens, avec un bon capot, comme dirait l'autre, une bonne casquette, on va être capable de marcher. Fait que je me suis tapé un 11 km de marche samedi, puis dimanche, un 8,5 km de marche. C'est pas pire, hein?
C'est bon.
C'est juste la marche, là. Je cours pas, puis je fais pas de jogging. Là,
mais vous faites beaucoup de vélo l'été, là, donc c'est correct. Ouais. Mais je m'étais fait dire par docteur Denis Boucher que si vous faites 10 km de course ou encore 10 km de marche, vous brûlez le même nombre de calories. C'est sûr que le cardio travaille peut-être un peu moins, mais au niveau des calories, vous brûlez le même nombre de calories. Et ça, ce serait scientifique, Maître Bellemare.
C'est vrai?
Ben oui.
Ben, c'est bien sûr, parce que j'ai souvent l'impression que, quand je regarde mon tour de taille, j'ai souvent l'impression que la marche ne donne pas grand-chose. Mais c'est parce que c'est pas juste la marche qui compte, pas juste de brûler des calories, c'est qu'il faut que tu fasses attention à ce que tu ingurgites. Parce que si tu manges mal, du McDo, du fast-food, du gras, des chips, du Coke, du Pepsi, t'as beau marcher 20 km par jour, si ce que tu rentres dans ton corps, c'est de la cochonnerie, ben ça n'aura pas nécessairement le même effet. Fait qu'il faut aussi bien se nourrir, parce que ce qui rentre dans l'estomac, c'est ce qui va finalement nourrir. Puis si tu veux, si tu es plein de mauvaises toxines, ben tu as beau marcher, faire les exercices que tu voudras, tu vas rester. Fait qu'il faut que je travaille là-dessus un petit peu aussi. J'écoute le Canadien de ce temps-là, ça fait battre 4-1 à Toronto, alors qu'il aurait dû. Écoute, entre toi et moi, la game de samedi, il aurait pu perdre 10-1, là. Ils ont juste été chanceux parce que Toronto n'a pas pesé sa suce, parce que, écoute, mais là, il s'en vient quoi avec notre club à Montréal, là? Ça va pas bien, là. Pour moi, Martin Saint-Louis va lever les feutres, là.
Je pense qu'il va partir par lui-même. Sa famille ne l'a même pas, pas suivi. Il est à Montréal tout seul avec un club qui est en reconstruction. Il y a de la difficulté à faire le lien entre les vieux et les jeunes. Il ne semble pas être hyper patient non plus avec les médias. D'après moi, il devrait partir par lui-même d'ici le temps des fêtes. Mais ça, je ne le souhaite pas. Je veux dire, c'est quand même une bonne personne, Martin Saint-Louis. C'est un gagnant. J'aurais aimé ça qu'il soit un coach hallucinant. Mais ça a de l'air à peser lourd sur lui, Maître Bellemare, là, ces temps-ci. Il semble pas avoir de solution. Au moins, peut-être, amener peut-être un coach senior avec lui, quelqu'un qui a peut-être un peu plus d'expérience que lui dans la Ligue nationale. Parce que Martin Saint-Louis a été tout un joueur de hockey dans la Ligue nationale.
Ben oui,
le problème, c'est que c'était un coach qui n'avait pas coaché plus haut que Pee-Wee. Là, tu coaches Pee-Wee, tu te ramasses avec des joueurs de hockey de la Ligue nationale, il y a un step supplémentaire. On a tendance à l'oublier que c'était un coach Pee-Wee, Martin Saint-Louis, mais c'était ça quand même. Il n'y avait pas d'expérience de coaching, mis à part d'avoir coaché son enfant. Mais c'est quand même Martin Saint-Louis, tout un joueur de hockey. Maître Bellemare, je voulais...
Si tu regardes les expériences de coach, parce que j'en parlais avec des amis à fin de semaine qui me disaient que si Martin Saint-Louis quittait maintenant, il serait brûlé dans la Ligue nationale pour le reste de sa vie.
Ben, ça se pourrait, oui. Ben,
c'est ça. Tu regardes les expériences, je pense à Maurice Richard qui a coaché les Nordiques une game ou deux quand ils sont arrivés dans l'AMH en 72. Je pense à Wayne Gretzky, ça a été un flop. Dale Hunter à Washington, ça a été un flop aussi. Donc, il y a beaucoup de joueurs de qualité qui n'ont pas réussi à être coach. Il doit peut-être penser à ça. Il va peut-être attendre de gagner une coupe de game avant de s'en aller. Je ne sais pas, de quitter sur une bonne note. Mais il doit être bien écœuré.
C'est une bonne
question.
Il doit
être bien écœuré.
Maître Bellemare, il nous reste à peu près 3 minutes. Je ne sais pas si vous êtes tombé sur un article d'un de vos collègues que j'aime bien lire, là, qui écrit une fois de temps en temps, tout comme vous, dans le journal. C'est Maître Clich, Bernard Clich, qui parle du fait que, bon, certains seraient peut-être portés à mentir à leur futur employeur. Est-ce qu'il faut tout déclarer à notre employeur, Maître Bellemare, quand on est en entrevue? Là, est-ce qu'il faut tout dire? Est-ce qu'il faut répondre à toutes les questions? L'employeur, as-tu le droit de me demander si j'ai une blonde à la maison ou si j'ai un chum?
Il n'est pas supposé de parler de ton état matrimonial ou de ton orientation sexuelle, à moins évidemment que tu travailles dans un milieu où l'orientation sexuelle est particulièrement importante. Je ne sais pas, dans une sex shop, par exemple, ou peu importe. Mais tu n'es pas obligé de tout dire. Et ce que je dis souvent à mes clients, moi, c'est tu réponds la vérité quand on te pose la question. Si on te demande dans quelle ville tu demeures, où est-ce que tu as fait tes études et quel niveau de scolarité que tu as, tu dois dire la vérité. Mais si on ne te le demande pas, tu n'es pas obligé de prendre les devants et de le dire. Et puis, dans la charte, c'est prévu aussi, la charte québécoise, que s'il y a eu des condamnations pour des crimes, tu n'es pas obligé nécessairement de les dévoiler, en autant que tu as purgé ta peine et en autant que ce n'est pas strictement rattaché aux perspectives d'emploi. Par exemple, si tu as été condamné pour une fraude, et que tu as sorti de prison il y a 4 mois, une fraude économique, tu as volé ton boss, puis tu t'en vas travailler pour une compagnie où tu vas être dans un chiffre en comptabilité aussi, je pense qu'il faut que tu le dises.
Oui.
Mais si tu as été condamné pour alcool au volant il y a 12 ans, tu n'es pas obligé de le dire.
Ah, moi, je prendrais la peine de le dire quand même, mais sachez que pour ce qui est de l'alcool au volant, après quelques années, vous pouvez faire une demande de pardon, là. Il y a des systèmes qui sont mis en place, justement, pour ces demandes de pardon-là. Ça efface pas votre casier judiciaire, ça fait juste le mettre de côté. Puis si jamais vous faites un autre patente qui est tout croche, bien là, votre casier judiciaire va être réactivé. Et là, ça sera peut-être pour de bon cette fois-ci, là.
Oui, mais c'est ça. Si on te pose la question et qu'elle est pertinente sur tes antécédents, ta scolarité, ton expérience de travail, ton expérience académique, et que tu mens, alors là, tu dis oui alors que c'est non, non alors que c'est oui, bien là, tu peux avoir des sanctions puis tu peux perdre ta job si l'employeur s'aperçoit que tu as menti. Parce que même si tu as menti sur une question périphérique, par exemple, je ne sais pas, tu dis « j'ai pas d'enfant alors que tu en as trois », même si ce n'est pas au centre des préoccupations de l'employeur qui te passe une entrevue, c'est quand même un mensonge. Puis souvent, on se dit « ben si tu as menti sur une question, même si ce n'est pas central, qu'est-ce qui me dit que tu as dit la vérité sur les éléments centraux? »
Est-ce que
ça vient affecter ton lien avec le boss.
Ouais, il reste à peu près 30 secondes à l'émission, Maître Bellemare. Est-ce que si j'ai des problèmes de santé, je suis obligé de le dire à mon futur employeur?
Ben, à mon avis, si c'est des problèmes de santé qui sont légers, tu n'es pas obligé de le dire. Mais si c'est un problème de santé qui est assez important, comme un cancer pour lequel tu suis de la chimiothérapie ou des problèmes mentaux significatifs pour lesquels tu es en traitement puis médicamenté alors que tu vas être appelé à travailler avec de la clientèle violente ou à risque, moi, je pense qu'il faut que tu le dises parce que ça pourrait affecter ta capacité de faire l'emploi.
Effectivement. Maître Bellemare, je vous souhaite de passer une agréable soirée. On se reparle lundi prochain.
Merci. Bonne semaine, tout le monde.
Bye-bye.
Bonne
semaine. Si vous avez des dossiers de CNESST, de SAAC, d'IVAC, c'est bellemareavocat.ca. À tous, une excellente soirée sur les ondes de Boulevard 102.1 et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain, 10h, avec Audrey. Ciao tout le monde. Bye-bye.
Marceau, le soir.
Salut la gang, c'est François Baudry, chroniqueur web de l'émission Gravel dans le retour. T'aimes mes chroniques? Tu veux en savoir plus sur le monde numérique? Rends-toi sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube.
Le ID4 est sans conteste le véhicule électrique qui fait le plus tourner les têtes. Comme la Beatles, le Westphalia ou encore le Golf, le ID4 écrit le nouveau chapitre de cette marque emblématique. Faites partie de l'histoire, vous aussi. L'avenir commence maintenant. Volkswagen Saint-Nicolas, ça clique avec Saint-Nic.
Mon père dit que les nouveaux rayés de Caleido sont rendus full flexibles. Il adore économiser des sous pour mon avenir, comme il veut, quand il veut. Fait qu'il risque d'adorer mon idée de ranger ma chambre, quand je veux et comme je veux. Merci Caleido, l'épargne étude qui en fait plus.
Cet automne, dites bye-bye tatou avec les cliniques Viva. Découvrez la meilleure technologie de détatouage disponible chez Viva. Fonctionne sur tous les types d'encre et couleurs de peau. Pour un temps limité, profitez d'un rabais de 25% sur vos séances. Cliniqueviva.com.
Au Cochon d'Inde, les rabais appartiennent à ceux qui mangent tôt. Du lundi au vendredi, de l'ouverture jusqu'à 9h30, profite d'une sélection de délicieux déjeuners pour seulement 11,95 $. Café de spécialité ou café filtre, tous deux sont inclus pour bien débuter la journée. Fais du Cochon d'Inde ta nouvelle habitude matinale. Cochon d'Inde, le rendez-vous gourmand pour les lève-tôt. Tous les détails en succursale.
Polestar Ville de Québec a beaucoup à vous offrir. Imaginez, une Polestar 2 2024, reconnue pour son design et sa performance, éligible à des remises gouvernementales pouvant aller jusqu'à 12 000 $. Une occasion unique de combiner expérience Polestar et économie maximale. Procurez-vous votre nouvelle Polestar 2 2024 parmi les dernières disponibles au pays. L'offre s'applique sur les voitures livrées avant le 31 décembre prochain. Polestar Ville de Québec, votre destination 100% électrique.
Chaque lundi, on a le plaisir d'être avec Maître Marc Bellemare. Mais Maître Bellemare qui a de l'air particulièrement en forme ce soir. Y a-tu des vacances reposantes, Maître Bellemare, ou c'est votre fin de semaine qui vous a rendu joyeux comme ça?
Mais non, j'ai passé la fin de semaine à l'île aux Grues, au nord de Montmagny. Il faisait très beau. Ils ont annoncé un 5 degrés dimanche, samedi, je me suis dit, tiens, avec un bon capot, comme dirait l'autre, une bonne casquette, on va être capable de marcher. Fait que je me suis tapé un 11 km de marche samedi, puis dimanche, un 8,5 km de marche. C'est pas pire, hein?
Bon.
C'est juste la marche. Là. Je cours pas, puis je fais pas de jogging. Là,
mais vous faites beaucoup de vélo l'été, là, donc c'est correct.
Ouais.
Mais je m'étais fait dire par docteur Denis Boucher que si vous faites 10 km de course ou encore 10 km de marche, vous brûlez le même nombre de calories. C'est sûr que le cardio travaille peut-être un peu moins, mais au niveau des calories, vous brûlez le même nombre de calories. Et ça, ce serait scientifique, Maître Bellemare.
C'est vrai?
Ben oui.
Ben, c'est bien sûr, parce que j'ai souvent l'impression que, quand je regarde mon tour de taille, j'ai souvent l'impression que la marche ne donne pas grand-chose. Mais c'est parce que c'est pas juste la marche qui compte. Pas juste de brûler des calories, c'est qu'il faut que tu fasses attention à ce que tu ingurgites. Parce que si tu manges mal, du McDo, du fast-food, du gras, des chips, du Coke, du Pepsi, t'as beau marcher 20 km par jour, si ce que tu rentres dans ton corps, c'est de la cochonnerie, ben ça n'aura pas nécessairement le même effet. Fait qu'il faut aussi bien se nourrir, parce que ce qui rentre dans l'estomac, c'est ce qui va finalement nourrir. Puis si tu veux, si tu es plein de mauvaises toxines, ben tu as beau marcher, faire les exercices que tu voudras, tu vas rester. Fait qu'il faut que je travaille là-dessus un petit peu aussi.
On lâche.
J'écoute le Canadien de ce temps-là, ça fait battre 4-1 à Toronto, alors qu'il aurait dû. Écoute, entre toi et moi, la game de samedi, il aurait pu perdre 10-1, là. Ils ont juste été chanceux parce que Toronto n'a pas pesé sa suce, parce que, écoute, mais là, il s'en vient quoi avec notre club à Montréal, là? Ça va pas bien, là. Pour moi, Martin Saint-Louis va lever les feutres, là.
Je pense qu'il va partir par lui-même. Sa famille ne l'a même pas, pas suivi. Il est à Montréal tout seul avec un club qui est en reconstruction. Il y a de la difficulté à faire le lien entre les vieux et les jeunes. Il ne semble pas être hyper patient non plus avec les médias. D'après moi, il devrait partir par lui-même d'ici le temps des fêtes. Mais ça, je le souhaite pas. Je veux dire, c'est quand même une bonne personne, Martin Saint-Louis. C'est un gagnant. J'aurais aimé ça qu'il soit un coach hallucinant. Mais ça a de l'air à peser lourd sur lui, Maître Bellemare, là, ces temps-ci. Il semble pas avoir de solution. Au moins, peut-être, amener peut-être un coach senior avec lui, quelqu'un qui a peut-être un peu plus d'expérience que lui dans la Ligue nationale. Parce que Martin Saint-Louis a été tout un joueur de hockey dans la Ligue nationale.
Oui,
le problème, c'est que c'était un coach qui n'avait pas coaché plus haut que Pee-Wee. Là, tu coaches Pee-Wee, tu te ramasses avec des joueurs de hockey de la Ligue nationale, il y a un step supplémentaire. On a tendance à l'oublier que c'était un coach Pee-Wee, Martin Saint-Louis, mais c'était ça quand même. Il n'y avait pas d'expérience de coaching, mis à part d'avoir coaché son enfant. Mais c'est quand même Martin Saint-Louis, tout un joueur de hockey. Maître Bellemare, je voulais...
Si tu regardes les expériences de coach, parce que j'en parlais avec des amis à fin de semaine qui me disaient que si Martin Saint-Louis quittait maintenant, il serait brûlé dans la Ligue nationale pour le reste de sa vie.
Ben, ça se pourrait, oui. Ben,
c'est ça. Tu regardes les expériences, je pense à Maurice Richard qui a coaché les Nordiques une game ou deux quand ils sont arrivés dans l'AMH en 72. Je pense à Wayne Gretzky, ça a été un flop. Dale Hunter à Washington, ça a été un flop aussi. Donc, il y a beaucoup de joueurs de qualité qui n'ont pas réussi à être coach. Il doit peut-être penser à ça. Il va peut-être attendre de gagner une coupe de game avant de s'en aller. Je ne sais pas, de quitter sur une bonne note. Mais il doit être bien écœuré.
C'est une bonne
question.
Il doit
être bien écœuré.
Maître Bellemare, il nous reste à peu près 3 minutes. Je ne sais pas si vous êtes tombé sur un article d'un de vos collègues que j'aime bien lire, là, qui écrit une fois de temps en temps, tout comme vous, dans le journal. C'est Maître Clich, Bernard Clich, qui parle du fait que, bon, certains seraient peut-être portés à mentir à leur futur employeur. Est-ce qu'il faut tout déclarer à notre employeur, Maître Bellemare, quand on est en entrevue? Là, est-ce qu'il faut tout dire? Est-ce qu'il faut répondre à toutes les questions? L'employeur, as-tu le droit de me demander si j'ai une blonde à la maison ou si j'ai un chum?
Il n'est pas supposé de parler de ton état matrimonial ou de ton orientation sexuelle, à moins évidemment que tu travailles dans un milieu où l'orientation sexuelle est particulièrement importante. Je ne sais pas, dans une sex shop, par exemple, ou peu importe. Tu n'es pas obligé de tout dire. Et ce que je dis souvent à mes clients, moi, c'est tu réponds la vérité quand on te pose la question. Si on te demande dans quelle ville tu demeures, où est-ce que tu as fait tes études et quel niveau de scolarité que tu as, tu dois dire la vérité. Mais si on ne te le demande pas, tu n'es pas obligé de prendre les devants et de le dire. Et puis, si y a dans la charte, c'est prévu aussi, la charte québécoise, que S'il y a eu des condamnations pour des crimes, tu n'es pas obligé nécessairement de les dévoiler, en autant que tu as purgé ta peine et en autant que ce n'est pas strictement rattaché aux perspectives d'emploi. Par exemple, si tu as été condamné pour une fraude et que tu as sorti de prison il y a 4 mois, une fraude économique, tu as volé ton boss, puis tu t'en vas travailler pour une compagnie où tu vas être d'un chiffre en comptabilité aussi, je pense qu'il faut que tu le dises.
Oui.
Mais si tu as été condamné pour alcool au volant il y a 12 ans, tu n'es pas obligé de le dire.
Ah, moi, je prendrais la peine de le dire quand même, mais sachez que pour ce qui est de l'alcool au volant, après quelques années, vous pouvez faire une demande de pardon. Là. Il y a des systèmes qui sont mis en place justement pour ces demandes de pardon-là. Ça efface pas votre casier judiciaire, ça fait juste le mettre de côté. Puis si jamais vous faites un autre patente qui est tout croche, bien là, votre casier judiciaire va être réactivé et là, ça sera peut-être pour de bon cette fois-ci. Là.
Oui, mais c'est ça. Si on te pose la question et qu'elle est pertinente sur tes antécédents, ta scolarité, ton expérience de travail, ton expérience académique et que tu mens,